C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler d'art. L'art est-il instagrammable? Et pour m'aider à répondre à cette question, je suis avec mon alter ego Camille Poignant.
Salut Thibaut, salut à tous. Et ben l'art, sujet très intéressant. Déjà, c'est quoi l'art? Alors j'ai regardé une petite définition.
Oula, on part de loin, très bien.
On n'est pas dans un sujet de philo, attention. Hein. Juste pour recadrer les choses, l'art c'est une expression d'un idéal esthétique, un ensemble des activités humaines créatrices visant à cette expression. Voilà, donc c'est très large l'art.
C'est très large l'art, et oui, et donc l'art, on va parler du lien entre l'art et Instagram, parce que plus le temps passe, et surtout ces dernières années, l'art devient de plus en plus instagrammable, en tout cas il y a une tendance à ça. Il y a une dizaine de jours, Anne Hidalgo inaugurait officiellement une nouvelle œuvre d'art géante dans les jardins du Petit Palais. Tu l'as peut-être vu, Camille, un bouquet de tulipes multicolores de près de 12 mètres de haut. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est une œuvre de Jeff Koons.
Ces tulipes ressemblent à des chamallows, d'ailleurs, je trouve.
Un petit peu, oui. Un petit peu. Donc, ça s'appelle le bouquet de tulipes, hein, et ça a un message officiel. Cette énorme statue de 12 mètres de haut a un message officiel: rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, mais avec des airs de Playmobil géant, hein, parce que c'est un petit peu ça, un truc ultra multicolore. L'œuvre, elle est spectaculaire et évidemment, c'est déjà un grand succès sur Instagram. C'est même une œuvre iconique qui a déjà son propre hashtag.
Bouquet of Tulips, on vous met le lien vers tous les hashtags qui sont sortis dessus.
Voilà, autre sujet, autre lieu, une chauve-souris géante en bronze est exposée depuis une dizaine de jours à l'entrée de la FIAC à Paris. Pareil, je ne sais pas si tu as aperçu ça, Camille.
Non, parce que je ne sais pas, c'est quoi la FIAC, Thibaut ?
C'est le grand barouf de l'art contemporain à Paris. Hein. C'est exactement FIAC, je ne sais pas exactement.
En tout cas, barouf,
c'est le grand barouf de l'art contemporain à Paris. C'est l'œuvre de Joan Creton. Et c'est donc une énorme chauve-souris, hein, géante, qui est posée comme ça dans la rue.
Avec un escalier pour pouvoir monter sur la statue. Et donc là, bien sûr, la photo s'impose.
Exactement. Alors là, pour l'artiste, il y a une évidence, c'est que l'œuvre, elle existe si elle est domptée par le public, hein, si on monte sur le dos de la chauve-souris, et surtout si on l'Instagram, parce que c'est encore mieux. Donc c'est vrai qu'on le voit, Instagram aujourd'hui est au cœur de la création artistique, et puis au cœur des relais de cette création artistique. Instagram est peut-être même devenu une plateforme de lancement pour les jeunes artistes.
Ouais, alors là, on parle de lancement, exactement, ce qu'on avait déjà parlé des Instagram artistes dans un autre épisode, ces gens qui font de l'art via Instagram. Là, on parle vraiment de créer de l'art et de relayer sur Instagram. Selon le magazine Artspur, Instagram est en réalité devenu une plateforme de lancement pour la carrière de plein de jeunes artistes et un observatoire international qui permet de scruter les tendances et les nouveautés dans l'art.
Alors, puisque tu m'as posé la question et que j'ai eu un trou, FIAC, la FIAC, Foire Internationale d'Art Contemporain, voilà. Réponse à ta question. Donc effectivement, Instagram, c'est devenu une plateforme de lancement pour les jeunes artistes, alors que YouTube, de son côté, a plutôt servi comme tremplin, hein, sur les chanteurs, les comédiens. Instagram se transforme petit à petit, peut-être sans doute malgré elle, en tout cas, en incubateur d'artistes. Ça, c'est intéressant à suivre, évidemment. C'est même peut-être pour certains devenu une sorte d'alternative aux galeries tradies. Hein.
Alors moi, je pense que c'est même devenu une alternative au marché d'art. Là où tous les professionnels s'intéressent à l'art et cherchent les nouvelles tendances, comme on le disait juste avant. Et pour les galeries traditionnelles, pour moi, on ne les remplacera pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça nous donne une vision beaucoup plus large de ce qu'est l'art.
Oui, c'est ça. Alors, en tout cas, une vision élargie de l'art. Et puis surtout, une alternative pour moi aux galeries traditionnelles. Là-dessus, Jonathan Creton, hein, le fameux monsieur qui a fait cette œuvre en forme de chauve-souris, lui, ce qu'il dit, c'est avant, un artiste, il était cantonné à son marché d'art, ses assistants, les journalistes, les galeristes.
Son style.
Ouais, bah du coup, aujourd'hui, grâce à Instagram, il est en contact direct avec le public. Donc, effectivement, il est en capacité d'échanger avec lui, peut-être de faire aussi évoluer hein, sa création artistique parce qu'il est en contact direct avec son public. Et puis aussi, c'est là où on les découvre. La plateforme, elle a ouvert la voie à une nouvelle vague d'artistes qui ont le choix hein, de vendre aussi leur propre production eux-mêmes. Ça, c'est assez fou. Vogue, le magazine Vogue, décrit même la plateforme comme un éminent acteur du marché de l'art, un acteur majeur dans le marché de l'art.
Et ça ne me surprend pas. C'est vrai qu'avant, le milieu de l'art, pour trouver des tendances, eh ben, y avait des magazines, tu parles de Vogue, là, qui allaient chercher des nouvelles tendances, qui faisaient des reportages sur un type qui avait lancé quelque chose. Ça marchait déjà dès que c'était sorti dans Vogue. Aujourd'hui, n'importe qui se déclare artiste va mettre un hashtag art et n'importe qui cherche des tendances va chercher toutes les minutes dans le hashtag art. Il y a des millions de trucs qui sortent et ça va être au même niveau que les autres.
Ouais, alors là, c'est vrai que là, c'est une grosse porte que tu ouvres. Hein, qui est artiste? Qu'est-ce que c'est l'art hein, c'était un peu ton intro. C'est pas trop le sujet du jour parce que, effectivement, là-dessus, il y a moyen d'écrire des thèses hein, sur tout le monde n'est pas artiste qui veut. Par contre, pour les artistes officiellement artistes, hein, dont c'est le métier, eh bien, Instagram, c'est clairement le marchand d'art du futur. Hein, parce que selon une étude, et là, je suis tombé sur une étude folle de Hiscox Online Trade, une étude sur. L'utilisation des outils technologiques dans le monde de l'art. Donc, comment le monde de l'art est influencé par les outils techno. Et là-dessus, il dit que la plus grosse évolution du marché de l'art, c'est les transactions qui se passent en direct sur Instagram. 48% des acheteurs d'art disent utiliser l'outil Instagram au quotidien. Donc, c'est vraiment un outil de sourcing pour découvrir des artistes. Et 65% des gens qui achètent de l'art, qui ont moins de 35 ans, utilisent Instagram pour sourcer des artistes. On vous met pareil le lien vers ce Online Art Trade Report qui date de 2017.
Et d'ailleurs, Vogue US décrit la plateforme comme le marchand d'art le plus éminent de l'époque.
Ouais,
pas étonnant.
Ouais, pas étonnant. Et là-dessus, effectivement, il y a des artistes hein, comme Ashley Longshore. Elle a 255 000 followers. Allez voir ce qu'elle fait, Ashley Longshore. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vend carrément ses œuvres par direct message hein, sur Instagram, clairement. C'est une artiste émérite, très connue aux États-Unis. Je pense qu'il y a des toiles à elle qui sont à peu près chez toutes les stars d'Hollywood. Et elle, maintenant, elle ne vend plus qu'en direct. Elle n'a plus de commission de galeriste ou d'agent. Elle vend en direct. Et là-dessus, elle dit, c'est à chaque artiste de devenir le businessman de son travail. Et ça, c'est très ricain quand même. Hein. Et les réseaux sociaux, eh ben, ça permet ça. Elle dit, je poste une photo d'une œuvre d'art et je reçois des détails bancaires avant même que la peinture soit sèche. Donc, c'est quand même impressionnant. Et on voit que là-dessus, effectivement, ça a bouleversé le marché de l'art. Hein.
Bah en fait, la spéculation, elle va encore plus vite avec Instagram. Avant, il fallait que tu sois dans l'atelier de l'artiste pour le voir commencer son truc avant que la peinture soit sèche. Donc, tu avais peut-être 3 personnes qui pouvaient se le permettre. Aujourd'hui, tu as 1 million de personnes qui voient une story avec une peinture en train d'être faite. Ils se disent, ça va être cool, je mets un prix, je propose de l'acheter. Quoi.
Oui, et puis t'as un phénomène, effectivement. En revenant au sujet, l'instagrammabilité de l'art. Mmh. Est-ce que l'art est instagrammable? Bah, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, Instagram peut booster la popularité d'une œuvre. Hein. Tu as peut-être entendu parler de cette tendance des art selfies, les gens qui se prennent en photo en selfie devant la Joconde. Et ben clairement, ces art selfies, ils peuvent booster la popularité d'une œuvre, le côté bankable d'une œuvre.
Vendable. C'est ça que tu...
Ouais, c'est ça. Okay. Et c'est ce qu'explique Artnet. Artnet, c'est un site spécialisé hein, dans l'art. Et là-dessus, par exemple, la galerie Victoria Miro, elle affiche carrément un hashtag dédié à côté des œuvres d'un artiste. Alors, par exemple, si tu vas voir Yaoi Kusama, eh ben, tu vas avoir un hashtag à côté de l'œuvre hein, dans la galerie. Hashtag Insta Kusama, de façon à ce que quand tu te prennes en selfie dans la galerie, eh bien, tu puisses ajouter le hashtag officiel de l'artiste. C'est quand même assez impressionnant. Hein.
Donc, ce que tu es en train de me dire, là, c'est qu'on va pouvoir valoriser comme une publicité média un art ou une peinture ou une œuvre avant même qu'elle soit créée ou alors avant même, sans qu'elle passe par un musée, on va pouvoir lui créer une valeur numérique visuelle, en fait.
Eh ben, effectivement, en tout cas, c'est plus forcément exclusivement le musée qui le vécu muséographique d'une œuvre qui donne sa valeur
d'art ou autre.
qui donne sa valeur. Maintenant, la valeur, la cote d'une œuvre, elle peut venir aussi, eh bien, potentiellement, effectivement, de l'intérêt qu'elle suscite en ligne. Hein, c'est fou, mais alors ça forcément, ça a des mauvais côtés. Hein, c'est que forcément, eh bien, l'art devient peut-être plus sujet aux algorithmes, en tout cas à la manière dont fonctionne Instagram. Hein. En gros, pour résumer, tu as eu le cubisme, tu as eu le surréalisme, le pointillisme, et peut-être que tu auras l'art Instagram. C'est peut-être ce qu'on est en train de
ouais,
voir aujourd'hui.
C'est fort probable, ça serait que ça devienne une tendance.
Voilà, et on sait hein, sur l'algorithme, ce qui est multicolore, flashy, très pop fonctionne mieux que ce qui est très dark, etc. Donc si tu prends Soulage qui faisait que des trucs sur une base de noir, peut-être que ça marche pas bien sur Instagram du Soulage. Alors que du Jeff Koons avec ses énormes tulipes multicolores, là c'est clairement Instagrammable. Donc à quel moment la plateforme, à quel moment l'algorithme influe sur le style d'art hein, c'est tout le sujet et puis aussi tout peut-être le stress de certains experts de l'art. Alors je vais citer Adeline Pillon qui est experte du marché de l'art, hein, elle est diplômée de l'école du Louvre et elle dit Instagram bah, ça convient pas à tous les artistes, il y a un biais avec la technologie, si votre œuvre elle est pas Instagrammable, eh ben, si elle n'a pas de couleur, par exemple, si elle n'est pas fluide, si elle n'est pas simple à comprendre, hein, eh ben, vous aurez du mal à exister. Y a un monde de l'art digital qui est en train de se développer. Et donc, voilà, il faut voir comment tout ça va évoluer. Je comprends le stress et l'inquiétude que ça peut susciter.
Moi, toute cette vague, justement, de changement dans l'art, de changement de la médiatisation et de la diffusion de l'art, ça me fait beaucoup penser à la vague du street art dans les années 80-90, qui a été popularisée par des artistes comme Banksy, Monsieur Brainwashing ou Space Invader, le mec qui mettait des petits robots en carrelage oui. un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, ce type d'art, il est partout. À l'époque, c'était ultra décrié. Et ils sont décidés à faire des galeries de street art. Et en fait, ça a toujours été un art un peu parallèle parce qu'il est intrusif mais il est totalement Instagrammable à la fois. Tu t'es dans la rue avec ton téléphone comme tout le monde, comme beaucoup de monde, tu le vois et tu peux peut-être même voir cet art-là avant les locaux qui habitent à cet endroit-là. C'est très éphémère, donc c'est très Instagrammable. C'est très secret parce que ça peut être dans des endroits où peu de monde a accès. On se sent privilégié comme dans un musée avec le street art. Et c'est vrai qu'on en trouve énormément. Pour moi, c'est une des premières formes d'art qu'on a retrouvées sur Instagram. Moi, dans mes tout premiers posts Instagram, c'était du street art. Et ça fait 10 ans que j'ai un Pinterest avec des photos de street art. Donc, c'était une vague avant la vague.
Ouais, là, ça c'est très intéressant, t'as raison, parce que là le street art c'est éphémère par excellence et puis surtout ça n'a pas de lieu spécifique, c'est pas forcément des œuvres qu'on voit dans les musées à exception à certaines exceptions prêtes, et notamment Space Invader, c'est vrai qu'il a vraiment travaillé entre guillemets sa communication, en tout cas sa logique de visibilité de ses œuvres via justement ce logique presque de chasse au trésor où Instagram devient la galerie où tu vas pouvoir collecter comme des Pokémon les différentes œuvres de Space Invaders qui sont collées un peu partout dans le monde, et côté musée, bah là aussi on fait sa révolution, tu vois, parce que on n'a pas envie que le Instagram devienne un musée, donc on s'est dit, bah nous côté musée, là aussi Instagram devient incontournable. Là-dessus, bah, d'une, les musées sont acteurs des réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas un musée qui n'a pas une vraie présence social media et notamment sur Instagram. Hein. Ils ont des vraies communautés autour de leur musée. Ils invitent leurs followers à participer à des concours photos, etc. Et puis je ne sais pas si tu savais, mais depuis 2014, il y a un truc qui s'appelle le Muséum Selfie Day, qui va exactement dans cet ordre-là. C'est la journée mondiale du selfie dans les musées. Tous les 16 janvier, eh bien, on invite les gens à se prendre en selfie dans un musée. Voilà, on sent effectivement que le lien maintenant est très, très ténu, est très fort entre le musée, le lieu d'exposition et Instagram.
Entre l'art originel et Instagram. Et d'ailleurs, il y a, donc tu parles de musées Instagrammables, il y a toute une gamme de musées qu'on appelle aussi les pop-up stores, les pop-up museums qui a été créé, qui cartonne aux États-Unis. En fait, ils ont inventé un nouveau moyen de faire adhérer le public à leurs œuvres, à leurs concepts, un nouveau moyen de les faire partager. Je m'étais noté, il était temps parce que les musées ont une image assez dégarnie, un petit peu poussiéreuse. Donc là, ils ont réussi à ramener les gens dans des musées. Et il y a une phrase de Michel Govan, qui est directeur du LACMA, Tu vas me demander ce que c'est. Le Los Angeles County Museum Heart, qui est le plus gros musée, le musée le plus visité de Los Angeles, il dit « À l'heure des plateformes sociales, nous forgeons notre identité en fonction de là où nous nous trouvons. On doit pouvoir se sentir chez soi au musée et les éléments qui le composent doivent devenir des totems que l'on peut s'approprier et prendre en photo. » Donc ils ont cette réflexion, les musées classiques, j'entends, et ils ne sont pas encore dans le changement, mais c'est là où sont arrivés tous ces musées pop-up.
Ouais, mais ça c'est intéressant, parce que tu, effectivement, dans la muséographie, dans la manière dont sont conçus les musées maintenant, les visites, dans la manière dont les visites sont orientées, effectivement, on le voit bien, il y a une recherche de l'instagrammabilité, comment même qui va dans le lieu, qui va outre les œuvres, qui est dans le lieu lui-même, on essaye de faire en sorte qu'il soit instagrammable, mais il y a carrément des musées qui vont beaucoup plus loin, il y a des musées à thématique, hein, et la thématique, c'est Instagram.
Et d'ailleurs, oui, exactement, j'ai une dernière phrase sur les musées dits classiques, leur défi à eux, justement face à ces nouveaux musées pop-up Instagram, c'est de continuer à susciter un désir expérientiel chez des gens sans pervertir les œuvres en fait, qui sont déjà dans leur musée, qui sont leur essence.
Ouais, mais ce qu'on voit, c'est que les œuvres elles-mêmes sont en train de se transformer vers des expériences instagrammables. On voit ces œuvres immersives complètement géantes. Là actuellement, il y a la Biennale d'Art Contemporain à Lyon. Franchement, c'est le spot pour aller faire des contenus Instagram, hein. Actuellement, ouais, voilà, ouais, je le dis aux Instagrammeuses et Instagrammeurs qui nous écoutent, allez à la Biennale. Et donc, je disais, il y a des musées carrément thématiques autour d'Instagram. Et il y en a un hallucinant, c'est le Museum of Selfies.
Ouais, le musée du selfie. Alors moi, c'est pas mon préféré, mais bon, c'est le musée où, en fait, ils reprennent un peu l'histoire du selfie. Ils ont même détourné l'histoire du selfie. Je sais pas si t'as vu ça, comme quoi une perche à selfie a été trouvée il y a 40 000 ans dans une grotte. Enfin, c'est un peu...
C'est un peu une farce. C'est un peu une farce. Par contre, le lieu est fait pour que tu aies mis l'occasion de pouvoir faire des selfies. Donc, en fait, t'es dans un lieu expérientiel qui est à mi-chemin entre le musée et un parc d'attractions, où tu vas pouvoir te prendre en photo. Dans un autre genre, tu as le musée entièrement consacré à la crème glacée, par exemple, à San Francisco.
Alors, celui-là, il est totalement fou. Il avait été prévu pour être éphémère, hein, comme plein de choses qui marchent à fond. Finalement, il n'est plus éphémère. Ils en ouvrent même un deuxième à New York. Tout est rose fluo. Tu peux plonger dans une piscine de toppings multicolores, tu sais, ces petits grains sucrés là. Donc forcément, tu tapes Ice Cream Museum, tu vas trouver que ça. Les gens se prennent en photo dedans. Et toute la déco est pensée pour être shootée, tu tiens des chamallows dans les mains, il y a plein de gens qui viennent déguiser, enfin tout est fait pour être Instagram dans ce musée-là.
Ça c'est fou parce qu'en fait tu es en train de te dire ces trucs-là sont quasiment des parcs d'attractions indoor à destination des Instagrammeurs. Alors effectivement on frôle parfois avec le plagiat artistique parce qu'on voit bien qu'ils empruntent des codes esthétiques issus d'artistes contemporains etc. pour les mettre à disposition en fait d'un public. Voilà, on n'est pas tout à fait dans l'art, mais par contre il y a des vrais musées pop-up, hein, des vrais musées éphémères.
Oui, il y a des vrais musées éphémères. Alors là, je peux te pas reparler de street art si tu as envie.
Volontiers.
À Angers, ville de notre cœur, Thibaut, depuis peu de temps. j'ai découvert d'ailleurs, grâce à notre ami Delphine qui nous écoute souvent, qu'ils avaient, ils avaient mis en place une initiative art au couvent. Il y a un ancien couvent, j'habitais juste à côté, je savais même pas qu'il était fermé, un couvent de bonne sœur classique qui est voué à la démolition, et il y a un collectif d'artistes qui occupe les lieux pendant un mois et demi pour lui redonner vie au travers de l'art. Donc tu vas avoir du street art, tu vas avoir des projections, tu vas avoir des Playmobil perchés sur des meubles, et ça s'y prête bien en fait. C'est toujours comme ça, dès qu'il y a quelque chose qui va être démoli, t'as toujours des collectifs d'artistes qui viennent, et là c'est un ancien truc religieux, donc t'as des grosses statues, t'as des grosses têtes de mort, enfin ça mélange vraiment les genres, et c'est vrai que ce lieu, enfin il y a de la nature à l'intérieur, donc il y a de tout, il y a de l'urbex je trouve aussi, enfin c'est magnifique. Je vous mettrai un lien, il y a le hashtag art au couvent au pluriel, et on trouve plein de réalisations de toutes les couleurs, enfin c'est voilà. Trop beau.
Donc là évidemment on est en pleine expérience là aussi instagrammable, où on se rend bien compte que le lien entre art et Instagram n'a jamais été aussi mince. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'art est instagrammable? Allez, c'est le sujet de thèse, hein, c'est le sujet du jour. On n'attend pas forcément des copies trop deep, mais si vous avez des choses à nous dire sur ce sujet, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, n'hésitez pas à venir nous en parler. On est sur @supernatif. Et puis,
bah écoutez, on vous souhaite une bonne journée. Oui. On est très content que vous nous écoutiez encore une fois sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à nous laisser un petit avis dès que vous aurez le temps. Et puis, on vous dit à demain.
Ouais, on vous embrasse. On vous dit à demain. Salut à tous.
Ciao.
Salut.